sera derrière nous. Pour commencer ces entretiens, nous allons parler d'un sujet qui passionne évidemment toutes les familles, les malades, mais aussi peut-être la France entière. Les médicaments contre la maladie d'Alzheimer ont fait couler beaucoup d'encre. Leur efficacité a été jugée insuffisante et ils ont été déremboursés. Cela a provoqué beaucoup de polémiques. Les familles ont été très déçues par cette situation. Mais une nouvelle molécule fait parler d'elle. Le docteur Guillaume Chapelet va nous la présenter et nous dire où en sont les recherches. Le docteur Guillaume Chapelet est gériatre au CHU de Nantes et enseignant-chercheur en gériatrie à l'Université de Nantes.
Bonjour à tous. Vous m'entendez bien, c'est bon? Oui. Je passe... Ok, donc moi, merci pour l'introduction, merci beaucoup pour l'invitation à cette journée où ces entretiens Alzheimer. Je suis vraiment très... Vous m'entendez mieux, là? Oui. Je suis vraiment très ravi d'être là avec vous. Je vais essayer de vous parler d'une molécule. Alors forcément, ça se base sur parfois des études, c'est un petit peu technique. Évidemment, mon propos n'est pas de vous perdre. Donc je suis évidemment ouvert à toutes les questions en fin d'entretien. L'idée, c'est de vous... sensibiliser un peu sur l'état de l'art, de là où en est le développement sur la thérapeutique, et notamment en vous parlant de cette molécule qui a défrayé un peu la chronique ces derniers mois. Je tiens juste à préciser que je n'ai pas de lien d'intérêt avec le laboratoire Biogen qui a développé cette molécule, donc mon propos est complètement objectif. Donc on va débuter par juste quelques mots sur la recherche en ce moment. Donc ça, c'est une diapo issue d'un site qui référence les principales études en cours. En octobre 2020, donc il y a 326 études en cours, principalement aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, et un petit peu en Europe. Vous avez sur la gauche ce qu'on appelle un pipeline, c'est-à-dire toutes les molécules qui sont en cours de développement à des stades divers et variés, d'études de phase 1, 2, 3, pour après la mise sur le marché et les études de phase 4. Et vous avez plusieurs grands types de molécules qui sont en cours d'investigation. Ce qu'on appelle les médicaments pour modifier la trajectoire biologique des patients, les disease modifying biologiques, en haut à gauche sur la figure de gauche. Vous avez des médicaments qui sont plus axés sur certains types de symptômes. Voilà, avec pour l'instant, comme ça a déjà été dit, pas de traitement qui a montré son efficacité à ce jour sur l'évolutivité ou la physiopathologie de la maladie. Sur le côté droit de la diapositive, vous avez un petit résumé des études en cours. Donc vous avez 60%, c'est le diagramme en vert, là, 60% des traitements qui sont en cours de mise au point pour limiter l'évolution de la pathologie. Et vous avez des études en cours sur les traitements qui peuvent améliorer les fonctionnements cognitifs ou essayer de traiter l'apparition de troubles psychocomportementaux, ce qu'on appelle les symptômes neuropsychiatriques. Et en ce qui concerne les médicaments sur l'évolution de la pathologie, vous avez plusieurs grandes classes de molécules qui sont en cours d'exploration. Vous avez ici les anti-amyloïdes qui sont là. Ça représente 35% de ces traitements, donc c'est la voie de recherche principale. Et donc le médicament dont je vais vous parler fait partie de cette voie de recherche principale. En bas à droite, vous avez le nom de la molécule, donc c'est l'aducanumab. Je ne sais pas si ceux du fond de la salle voient bien, mais donc c'est un médicament qui est mis au point par le laboratoire Biogen, comme je disais tout à l'heure, avec des études qui ont commencé en mars 2020, et notamment une étude en cours encore, pour essayer de voir si l'effet qui a été mis en évidence récemment peut se confirmer sur d'autres études. Donc là, on ne parle pas d'une molécule qui va être... proposé aux patients en dehors de protocoles d'études dans les mois qui viennent. Encore une fois, vous avez la disposition sur le côté gauche des différentes molécules qui sont testées. Donc vous avez les anti-amyloïdes qui sont en rouge. Encore une fois, c'est la classe thérapeutique qui est la plus explorée, la piste thérapeutique qui est la plus explorée. Donc l'anticorps dont je vais vous parler s'inscrit là-dedans. Et juste un petit bref rappel à droite, vous avez au moment de la mise au point des molécules plusieurs phases, la phase 1, la phase 2 et la phase 3. La phase 1, c'est vraiment les études préliminaires avec une molécule, donc c'est sur des volontaires qui sont le plus souvent sains. L'idée, c'est de voir comment est-ce que le médicament se répartit dans l'organisme, sa cinétique de répartition dans l'organisme, et mettre en évidence une éventuelle toxicité avec la dose. Donc vous allez voir que l'étude de phase 1 sur l'aducanumab s'appelait PRIME. Ensuite, on peut faire une phase 2. Donc là, c'est sur des volontaires qui sont malades pour déterminer la dose minimale efficace et d'éventuels effets indésirables. Et ensuite, on peut faire la phase 3, qui est avant la mise sur le marché. Sur le médicament dont je vais vous parler, la phase 1 a eu montré des effets intéressants et du coup, la phase 2 a été un peu switchée. Ils sont directement allés sur la phase 3. Et du coup, je vais vous montrer les résultats de deux études de phase 3 de ce médicament. Sur le côté droit du tableau, vous avez le nombre de médicaments en cours au moment où on parle en 2020, qui sont à ces différents niveaux de phase 1, de phase 2 et de phase 3. Donc il y a une petite baisse globale par rapport à 2019. Il y avait 134 médicaments qui étaient de piste thérapeutique médicamenteuse qui étaient explorés en 2019, comme contre 121 là, actuellement, cette année. Donc le médicament dont je parle, je me répète, ça intervient sur la fameuse cascade amyloïde. Vous savez peut-être, mais dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, il y a deux grandes lésions fondamentales. Vous avez l'accumulation de protéines amyloïdes avec un clivage anormal sur le côté gauche de la figure d'un récepteur. Et en fait, il y a un bout de protéine qui en fait s'agrège avec d'autres bouts de protéines qui forment des dimères, des oligomères, donc une accumulation de plusieurs protéines, qui après forment des fibrilles et des plaques amyloïdes. Donc ce sont ces plaques amyloïdes qu'on peut voir sur le côté droit de la diapositive ici, qui sont des plaques qui sont en extracellulaire, à l'extérieur des neurones, et qui forment des plaques. Et donc la localisation de ces plaques, notamment dans les structures temporales internes ou près de l'hippocampe, est associée à l'apparition des symptômes notamment, avec l'autre lésion de la maladie d'Alzheimer. Donc vous avez les plaques amyloïdes d'un côté, et puis vous avez une anomalie au niveau d'une protéine qui s'appelle la protéine Tau, qui est hyperphosphorylée, il y a des résidus phosphore qui s'accumulent en excès au niveau de cette protéine, et qui en fait entraîne une altération du fonctionnement des cellules nerveuses, et qui entraîne ce qu'on appelle une dégénérescence neurofibrillaire, une mort neuronale. Donc ces deux lésions-là, l'atteinte au niveau de la protéine Tau et l'atteinte au niveau amyloïde, sont les lésions fondamentales de la maladie d'Alzheimer. Et donc l'aducanumab agit pas du tout sur la partie Tau, mais plus sur la partie amyloïde. C'est un médicament dont j'ai parlé tout à l'heure en préliminaire, qui vraiment s'intéresse à cette physiopathologie amyloïde de la maladie d'Alzheimer. Pour pouvoir agir sur ces étapes, sur les problèmes d'accumulation de protéines en plaques amyloïdes, on a plusieurs pistes thérapeutiques qui ont été proposées. Sur la figure de gauche, vous voyez ce qu'on appelle une immunothérapie. Donc en fait, c'est un peu comme un vaccin. On propose à des gens un vaccin pour qu'ils puissent réagir à la protéine amyloïde quand elle s'accumule notamment dans leur cerveau pour pouvoir l'éliminer facilement. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu d'études avec un effet important dans le cadre de ces protocoles. Et l'autre alternative, c'est de proposer des anticorps aux patients. Donc c'est cette attitude qui a été privilégiée pour la l'aducanumab. En fait, ce sont des perfusions d'anticorps anti-amyloïdes qui vont fa en fait favoriser l'élimination de ces fameuses plaques amyloïdes. Donc vous avez sur le côté droit les endroits où on peut agir sur ces plaques amyloïdes. Vous avez soit les anticorps qui viennent se greffer sur ces plaques pour pouvoir les détruire, donc c'est la flèche de gauche, soit au milieu en fait des anticorps qui activent le système inflammatoire qu'on appelle la microglie au niveau du cerveau, qui en fait en eux-mêmes peuvent favoriser l'élimination des plaques, soit les anticorps qui agissent en périphérie en fait, et qui en fait entraînent une fuite d'amyloïdes par un autre mécanisme périphérique qui n'est pas directement au niveau de la plaque. D'accord? Pour l'aducanumab, donc c'est l'avant-dernière colonne de ce diapo, ça agit au niveau de ces formes oligomériques. Vous savez, vous avez le récepteur avec un clivage du récepteur à un mauvais endroit, et donc ces protéines qui s'accumulent en dimère, et donc ça agit contre ces formes-là, dimériques, et aussi ça agit sur les fibrilles d'abêta qui se forment. Ici, vous avez une liste d'autres anticorps amyloïdes, donc vous avez vu qu'il y a des anticorps qui ont des cibles différentes, soit sur toutes les formes de abêta, soit que les formes solubles, soit des formes insolubles, et donc chaque anticorps a des moyens d'action un petit peu différents. D'accord? Ça, c'est la fameuse étude PRIME 1, donc c'est la phase 1. Donc là, on est vraiment en train de parler début de mise au point de la molécule pour essayer de voir la toxicité, potentiellement l'efficacité. Donc vous avez sur le côté gauche l'organisation de l'étude avec des bras de randomisation. Donc vous aviez 106 patients qui ont été inclus avec des posologies différentes de 1, 3, 6 et 10 mg kilo. Donc en fait, on varie la dose pour voir en efficacité, en tout cas la toxicité au départ, hein, ce que je vous dis sur les phases 1. Et donc au milieu, on s'aperçoit qu'on a une imagerie amyloïde, qu'on appelle l'imagerie amyloïde. Plus c'est rouge, plus on a une charge amyloïde importante. Vous avez sur la colonne de gauche un instant à l'inclusion, et la colonne de droite, on voit qu'il y a moins de rouge. Je ne sais pas si ça vous paraît, si vous voyez bien ça. Donc, en fait, avec ce traitement, dans cette étude de phase 1, on s'est aperçu qu'il y avait une clairance de ce signal amyloïde sur l'imagerie. Donc, c'est plutôt prometteur. Hein. C'était une des lésions qui est associée potentiellement à l'évolutivité ou la sévérité de la pathologie. Donc, une phase 1 intéressante. Et sur le côté droit, on voit la même chose, mais sur des critères de jugement plus en lien avec des tests neurocognitifs. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un effet dose, c'est-à-dire que plus on augmente la dose, et on a un effet avec une différence par rapport à la basale, à l'inclusion. Donc c'est une étude de phase 1 qui était quand même assez intéressante. Hein. C'était une des premières à montrer une efficacité sur la disparition du signal amyloïde et une potentielle efficacité clinique. Donc c'est pour ça que l'étude de phase 2 a été switchée pour aller directement sur l'étude de phase 3. Ici, vous avez des scores, ce qu'on appelle des scores neurocognitifs, qui sont utilisés dans le cadre de protocoles de recherche clinique. Donc, vous avez à droite peut-être le score que vous connaissez, ce qui s'appelle le MMSE, qui est un score qui est très souvent fait en pratique clinique quotidienne. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a des différences par rapport à l'inclusion chez les patients qui ont reçu l'anticorps. Et donc, encore un effet potentiellement bénéfique pour le traitement. Et à gauche, un autre score qui s'appelle la classification CDR, qui est associé aussi à la variation de l'apparition des symptômes, notamment des symptômes mnésiques ou des troubles neurocognitifs au sens large, et du retentissement dans la vie quotidienne. Encore une fois, des arguments plutôt prometteurs sur l'efficacité de ce traitement chez les patients qui ont une maladie d'Alzheimer dans cette étude de phase 1. Compte tenu de cette efficacité, l'étude a été prolongée. Et donc, vous voyez sur la figure de gauche la première phase de 12 mois en bleu, qui est en fait l'étude préliminaire Princept Prime. Et puis ensuite, il y a cette extension à long terme à droite, avec une extension de la zone, de la période d'inclusion des patients et le suivi des patients. Et on voit de manière assez intéressante, je ne sais pas si je peux mettre un pointeur, non, je vais aller ici, enfin, en bleu foncé sur la figure de gauche, on voit que plus la dose est importante, plus on baisse et plus on arrive en dessous de cette fameuse ligne de 1 qui est associée à un seuil de positivité. Et donc ça veut dire que significativement, chez ces patients-là, à la fois initialement et au cours du suivi, on s'aperçoit qu'il y a une variation de ce fameux signal amyloïde, encore un élément prometteur pour cette maladie-là. Et de la même manière à droite, c'est une autre représentation de l'efficacité thérapeutique sur l'évolution des critères cliniques dont je parlais précédemment, CDR-MMS. On s'aperçoit que plus la dose est importante, et moins on a une accélération de ce déclin. Encore une fois, je prendre un petit temps pour insister sur le fait qu'on ne parle pas de réversibilité des symptômes. D'accord ? On parle d'un déclin qui est toujours présent, mais qui apparaît moins vite que s'il n'y avait pas ce traitement-là. C'est-à-dire que la maladie est un peu stabilisée, ou elle évolue un peu, mais on n'est pas en train de parler d'amélioration de la maladie. Du coup, comme ces résultats étaient assez prometteurs dans cette étude PRIME, il y a eu deux études de phase 3, donc c'est les fameuses études EMERGE et ENGAGE. Vous avez en bleu sur la carte en bas les différents pays qui ont participé à ces études, donc ça représente beaucoup, beaucoup plus de patients que sur l'étude de phase 1, qui était vraiment une centaine de patients pour voir quelques données d'efficacité et vraiment la tolérance. Ici, vous avez 3285 patients dans 20 pays, donc qui avaient 70 ans d'âge moyen. Donc, c'est des patients qui avaient une maladie d'Alzheimer à un stade léger avec ce score MMSE supérieur à 24. Et donc là, dans cette étude, ce qui intéressait le laboratoire et les auteurs, c'est de se dire, sur une plus large cohorte, est-ce qu'on peut vraiment retrouver ces effets qui étaient intéressants dans l'étude préliminaire de phase 1, notamment en termes d'évolution de la maladie et en termes d'apparition ou pas de ces dépôts amyloïdes avec le signal dont j'ai parlé tout à l'heure sur les premiers patients. Donc les résultats, donc là, ça a été toute une histoire. On va commencer en mars 2019, où en fait, il y a une analyse intermédiaire qui a été faite par une entreprise de biostatistique, enfin du personnel biostatistique qui est extérieur au laboratoire Biogène, qui est indépendant du laboratoire. C'était prévu déjà au moment de l'étude. Ils ont montré que dans ces deux études, EMERGE et ENGAGE, il n'y avait pas d'effet du traitement, ni sur le signal amyloïde, ni sur l'évolution des symptômes. Donc c'était très décevant à tel point que le laboratoire a décidé de suspendre les études pour futilité. Et finalement, ça n'aurait pas été le premier anticorps monoclonal à arriver à une phase comme ça en disant que finalement, sur une population de large spectre, il n'y a pas d'effet. Sauf que, en fait, le temps que l'analyse, le laboratoire, enfin, l'équipe de biostatistique fasse les analyses, il y a encore des patients qui ont été inclus, à peu près 200 à 250 dans chaque étude, Emerge et Engage. Et en fait, il y a de nouvelles analyses qui ont été faites en octobre 2019, mais là, avec les données de tous les patients qui avaient été inclus, et pas que la première partie qui avait été inclue, en gros, à la moitié de l'étude. Et donc là, on s'est aperçu que dans Emerge, les critères de jugement dont je parlais tout à l'heure sur le signal amyloïde et sur l'évolution de la maladie, les critères de jugement étaient remplis, c'est-à-dire que le traitement paraissait efficace. Mais pas dans Engage. Donc ça, c'est quand même un peu embêtant, hein, quand on a deux études de design différents et qu'on s'aperçoit qu'il y en a une qui est positive et l'autre qui est négative, c'est pas forcément très très encourageant. Les auteurs se sont aperçus qu'en fait, là où le signal était peut-être le plus fort, c'était sur la population qui recevait la plus grosse dose. Je vous ai dit, il y avait 1, 3, 6 et 10 mg kilo. Donc, dans l'étude Engage, celle qui était négative, par rapport à celle qui était positive, c'était Emerge. Donc, dans l'étude Engage, ils ont fait une analyse de la sous-population de ces patients-là qui avaient la dose la plus importante. Et là, le résultat était positif. Autrement dit, dans la globalité de la population, l'étude était négative. Mais par contre, dans cette population de patients qui ont reçu une analyse avec une molécule à dosage plus fort, le médicament paraissait intéressant. Alors, il faut savoir que du point de vue méthodologique et statistique, c'est vraiment très discutable de faire ça. Ça ressemble un peu de loin d'aller à la pêche au résultat. Donc, ce n'est pas forcément très satisfaisant du point de vue statistique et méthodologique. Mais malgré tout, ça conforte quand même le résultat de l'autre étude, l'étude Emerge. Les auteurs expliquent qu'en fait, dans les deux études, il y a eu des amendements au protocole pour pouvoir inclure et proposer le traitement à plus forte dose, et que cet amendement est arrivé un peu plus tôt dans l'étude Emerge que dans l'étude Engage. Donc dans l'étude Engage, comme il y avait moins de patients qui avaient cette forte dose, dans la globalité de l'étude, c'est pour ça que l'effet n'était pas retrouvé, alors que quand on s'intéressait aux patients qui avaient plus forte dose, l'effet était retrouvé. Donc voilà la fameuse étude Emerge qui retrouve un résultat positif. Je vous ai mis en cadre vert la différence, donc c'est 23% de différence d'évolution des troubles par la fameuse échelle CDR. Encore une fois, on ne parle pas de réversibilité des troubles, on parle d'une variation de 23% de l'évolution de la maladie. D'accord ? On ne parle pas d'une réversion de 23%, c'est juste que ça décline, mais ça décline 23% moins vite dans cette étude-là. Qu'on regarde à la fois toute la population ou les populations qui ont reçu les plus fortes doses. Et donc, on voit aussi de manière vraiment très, très intéressante à droite, là où j'ai écrit AVQ. AVQ, ça veut dire activité de la vie quotidienne. C'est que dans cette étude-là, on a à la fois un lien sur des scores cliniques, mais aussi une association avec un moindre déclin des conséquences dans la vie quotidienne. Ce qui est quand même intéressant aussi du point de vue clinique. Et enfin, en bas à droite, vous avez la même chose. Une conséquence avec les fameux dépôts amyloïde, c'est l'imagerie dont je parlais tout à l'heure. Donc on a à la fois les dépôts qui sont moins souvent positifs, en tout cas qui déclinent moins vite. On a un critère de jugement clinique qui est intéressant, la maladie décline moins vite. Et puis il y a le retentissement dans la vie quotidienne qui décline moins vite. Donc c'est quand même, c'est pour ça que cette étude est vraiment très très intéressante. Sur la deuxième, donc vous avez à gauche le premier résultat négatif avec la première analyse de toute la population. Donc là, on voit même une tendance à une plus forte progression de la maladie chez les patients qui ont une plus forte dose, avec une courbe qui croise et qui va au-dessus du traitement standard. Et donc, en fait, si on passe de cette courbe à gauche à la courbe à droite en prenant que les patients qui ont reçu une plus forte dose, là, on s'aperçoit que ça devient vert, ça devient positif. Donc, c'est celle de l'analyse en sous-population dont je parlais tout à l'heure. OK ? Et on est à peu près sur le même ordre de grandeur. Là, on est à 27% de moins de déclin contre 22% dans l'autre étude. Donc finalement, que retenir ? Déjà, ce qui est vraiment très, très intéressant, c'est que ces deux études-là, Engage et Emerge, sont les premières qui montrent une efficacité d'un anticorps anti-amyloïde. Ça n'avait jamais été fait avant. Donc c'est plutôt une lueur d'espoir malgré tout, parce que jusqu'à présent, on n'avait jamais... Même si c'est critiquable, j'ai essayé de prendre des personnes pour vous expliquer ces résultats, même si c'est critiquable, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a une variation du déclin. Cette variation de 20% que vous avez vue dans Emerge et dans Engage, ça correspond à une variation qui est une classification CDR, c'est la classification dont je parlais tout à l'heure sur l'évolution de la maladie, et ça correspond à une classification de CDR de 0,4, qui n'est pas forcément très pertinent malgré tout du point de vue clinique. Donc, c'est-à-dire que l'effet il est modeste. Alors après, ce n'est pas un suivi qui est très, très prolongé sur des années. Donc on imagine que peut-être que si les patients prenaient ce traitement sur des durées beaucoup plus prolongées, ils auraient une significativité clinique beaucoup plus importante que juste cette discrète variation de 20%. Donc c'est pour ça qu'il y a des mais dans cette étude. Donc c'est une lumière d'espoir, oui, mais notamment dans l'autre étude qui n'était pas positive initialement, l'efficacité est apparue quand on a fait un changement de dos ou quand on a artificiellement modifié les analyses statistiques. Donc ça sous-entend que l'efficacité du traitement est malgré tout de faible amplitude. D'accord ? En tout cas, à 18 mois, qui était le suivi des patients, c'est de faible amplitude. Et puis encore une fois, on ne parle pas de réversibilité de la maladie, on parle de stabilité, en tout cas d'une moindre évolution des symptômes chez des patients à forte dose. Et enfin, un point qui est intéressant du point de vue médico-économique et que ces études n'ont pas du tout considéré, c'est le coût de ces molécules. C'est à peu près 50 000 euros par an et par patient. Donc on a dit tout à l'heure qu'il y avait 950 000 personnes en France, à peu près, qui ont une maladie d'Alzheimer. Donc on voit le coût que ça pourrait avoir pour la société. Est-ce que la société est prête? Est-ce que les décideurs politiques sont prêts à proposer ce traitement et à proposer un remboursement de ce traitement alors que l'efficacité reste malgré tout assez modeste pour l'instant, comme l'ont montré les études? Voilà toute la discussion pour ce traitement de l'aducanumab. Donc les perspectives, c'est peut-être d'autres médicaments, peut-être ces traitements pourraient être intéressants à des stades peut-être encore plus précoces. Là, c'était des patients qui commençaient à être symptomatiques. Peut-être que si on arrive plus tôt, ça peut être encore plus précoce. Et puis après, discuter quelle efficacité par rapport à l'augmentation de la dose et quelle serait la tolérance de ces traitements par les patients. Et ensuite, il y a des négociations en cours là, aux États-Unis entre la Food and Drug Administration, donc c'est une sorte d'agence de médicaments aux États-Unis, et le laboratoire pour essayer de proposer un remboursement pour que ce traitement soit utilisé aux États-Unis. Mais en France, pour l'instant, à ma connaissance, ce n'est pas encore l'ordre du jour.
Merci
voilà,
beaucoup.
Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, est-ce qu'il y a eu des petits papiers ? Je ne sais pas qui devait m'apporter des petits papiers avec des questions. Mais en attendant, moi, j'ai quand même quelques questions. Donc, vous avez signalé que là où il y avait une inefficacité, c'est quand l'anticorps était donné à haute dose. Est-ce que dans ces cas-là, il y a plus d'effets secondaires ? Et quels sont-ils ?
Alors, les effets secondaires décrits, c'est surtout des mal de tête, céphalées, et puis des anomalies qu'on voit à l'IRM qui sont associées à l'apparition d'œdèmes sous traitement, qu'on appelle ASIA en termes techniques, qui sont en grande partie réversibles et une sévérité qui n'est pas très importante. Donc, en termes de tolérance, on avait l'impression que c'est plutôt bien toléré, ces traitements.
Donc, plutôt bien toléré.
Oui.
Peut-être pour des personnes qui sont dans la salle et qui se demandent, est-ce que mon proche qui est atteint de la maladie d'Alzheimer pourrait rentrer dans un essai ? Quel est le profil des patients qui sont testés, ou même si d'autres études se mettent en place, à qui ça s'adresse exactement ?
Là, dans cette étude-là, les critères d'inclusion de l'étude, donc c'est-à-dire les gens qui pouvaient participer à l'étude, c'était des patients qui avaient vraiment une forme très légère de la maladie, avec un MMS supérieur à 24, donc c'est une échelle sur 30. On s'aperçoit que les conséquences sur la vie quotidienne apparaissent quand on descend souvent en dessous de 24, et plus on descend, et plus on a de conséquences. Donc là, c'est vraiment un essai au début de la maladie. Il n'y a pas d'essai en cours avec cette molécule sur une potentielle maladie qui serait plus sévère, voire même ce que les experts ont tendance à penser, c'est que plus on arrive tôt sur l'apparition des lésions, et plus on aura une chance d'être efficace. Donc c'est vrai que ça ouvre le débat de savoir à quel patient on pourrait proposer ce traitement, et probablement que chez les gens qui ont une maladie déjà installée à des formes modérées et sévères, peut-être, paradoxalement, ils auraient peut-être moins de bénéfices de ces traitements-là, effectivement.
D'où l'intérêt toujours d'un dépistage précoce de cette maladie si ce genre de médicament arrive sur le marché.
Ouais. Le dépistage précoce a beaucoup, beaucoup d'avantages. Hein. Ça permet déjà de faire un diagnostic et de pouvoir discuter avec le patient et son entourage du diagnostic, de proposer au patient de participer à ce type d'études, par exemple. Et c'est vrai que c'est, indépendamment du fait qu'il y a un traitement ou pas, ou un bénéfice qu'on attend d'un traitement, il y a plein d'autres choses qui sont nécessaires et qui renforcent l'idée de continuer à faire ce dépistage et ce diagnostic précoce chez ces patients-là.
Des questions ? Alors, juste une en attendant les petits papiers. Vous avez montré un tableau dans lequel plusieurs molécules sont testées actuellement. Est-ce qu'il y en a une ou deux qui sortent du lot ?
Pour l'instant, l'aducanumab est la seule molécule qui vraiment est arrivée aussi loin dans les explorations. Il y a d'autres études, un autre anticorps qui est en une phase 3 actuellement. C'est une étude qui s'appelle Précision. Mais pour l'instant, on manque encore de données sur l'efficacité potentielle des autres molécules. Et c'est vraiment d'où l'espoir que fait naître cette molécule. C'est la seule étude qui, pour l'instant, a montré une efficacité.
Alors, il y a une question vraiment très logique là, qui vient d'être posée. C'est-à-dire que quand le diagnostic est fait, est-ce que le médecin peut faire la différence entre les deux causes de la maladie, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une accumulation des plaques amyloïdes ou une accumulation des protéines tau pour savoir s'il peut donner l'anticorps, par exemple, en cas d'accumulation des plaques amyloïdes.
Alors, en fait, cette discussion est un peu complexe parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'indépendamment de la présentation clinique et du syndrome que présente le patient, il peut y avoir plusieurs atteintes histologiques et plusieurs protéinopathies qui peuvent donner les symptômes. Malgré tout, il faut quand même retenir que dans la maladie d'Alzheimer, l'accumulation des lésions tau et l'accumulation des lésions amyloïdes sont les critères de la maladie. Et donc, les patients, ils ont les deux. En fait, ils n'ont pas l'un ou l'autre. Ils ont les deux à la fois. Et en fait, on peut s'apercevoir de ça quand on fait la fameuse imagerie amyloïde ou quand on fait des ponctions lombaires où on peut faire des dosages de ces deux protéines. Donc, ces dosages sont altérés et montrent la présence de... C'est un signe évocateur de la pathologie de la maladie d'Alzheimer. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait des patients qui ont la maladie d'Alzheimer qui n'ont que l'atteinte amyloïde, qui n'ont que l'atteinte tau. Les deux lésions sont présentes dans la maladie d'Alzheimer.
D'accord. Et tout ça est objectivé par l'imagerie et des analyses.
Ouais, alors les imageries tau ne sont pas disponibles en France en pratique clinique quotidienne. C'est que dans le cadre de certains protocoles de recherche. Et alors, pareil pour les imageries amyloïdes. C'est vraiment on utilise des biomarqueurs indirects que vraiment le dosage, l'analyse de ces deux lésions fondamentales de la maladie. J'étais un peu loin dans l'exploration de cette physiopathologie pour vous expliquer sur quelle hypothèse ou quelle phase de la maladie ou quelle lésion de la maladie pouvait agir cet anticorps. Mais en pratique, notamment en clinique quotidienne, on n'a pas forcément les moyens d'aller aussi loin dans la prise en charge des patients.
Très bien. Est-ce qu'on peut comparer l'efficacité d'une part du traitement médical celui que vous avez évoqué, me dit-on, vu le coût, et à comparer avec le traitement entre guillemets naturel, vie sociale, activité physique, nutrition, etc.
C'est difficile de répondre à cette question pour la personne qui a posé cette question-là. Oui.
En phase de démarrage
de la maladie. Oui. Alors, c'est la maladie d'Alzheimer est une maladie qui évolue souvent sur 10, 15 ans ou 20 ans. Et donc, quand on fait le diagnostic, il y a déjà 10 à 15 ans d'évolution. Il y a des facteurs qui sont modifiables. On estime qu'il y a à peu près 40% des facteurs qui peuvent causer la maladie d'Alzheimer qu'on peut traiter ou qu'on peut prendre en charge. Donc, ça concerne des facteurs métaboliques, les facteurs vasculaires, l'obésité, la pratique de l'activité physique. Et donc, ce sont des facteurs où, enfin, il y a des études qui ont montré qu'un régime adapté pouvait être associé à une moindre incidence de déclin d'apparition de troubles neurocognitifs ou de déclin de la maladie. Donc il y a quand même des données fortes sur ces facteurs qui sont potentiellement modifiables. Après, encore une fois, ces éléments et ces traitements sont à proposer vraiment dès le début de la maladie pour vraiment avoir un effet sur l'évolutivité après. C'est-à-dire quand la maladie est déjà installée, souvent on a des problématiques différentes en termes de prise en charge, notamment par exemple sur le plan nutritionnel. Donc c'est pas, ce sont les thérapeutiques s'adaptent en fonction de la sévérité de la maladie. Je ne sais pas si j'ai été clair dans ma réponse.
Oui, mais c'est très difficile de voir à quel moment la maladie est installée par rapport à sa phase de démarrage.
Effectivement.
Elle est installée, mais à partir de quand elle est vraiment, vraiment, vraiment installée?
Alors ça, on peut le voir cliniquement à partir de plusieurs éléments. Déjà, souvent, il y a une plainte cognitive qui est présente, quelle que soit l'atteinte cognitive, la mémoire, le langage, les fonctions exécutives. Une plainte, une atteinte cognitive. Ensuite, il y a souvent des tests de dépistage qui sont perturbés, par exemple le MMS dont je parlais tout à l'heure, mais souvent on fait un bilan en neuropsychologie beaucoup plus approfondi que juste ce premier test et on s'aperçoit que c'est perturbé. Et quand la maladie est vraiment installée, on a des conséquences sur la vie quotidienne, sur l'activité instrumentale de la vie quotidienne. Mais ça apparaît souvent 15 ans ou 20 ans alors, après l'apparition des premières lésions au niveau du cerveau.
Alors il y a encore deux questions. Est-ce que la ponction lombaire est déterminante pour le dépistage précoce et aussi donc pour l'obtention de la prescription du médicament?
Alors, vous parlez de ce médicament-là parce que dans ce traitement-là, on est vraiment pas du tout en pratique clinique quotidienne, on est dans le cadre de protocoles de recherche, et effectivement, on peut être amené dans le cadre de protocoles de recherche à faire plus d'examens pour pouvoir participer à ces protocoles de recherche, donc par exemple une ponction lombaire. Mais là, on n'est pas du tout en train de parler d'un médicament qu'on peut utiliser en pratique clinique quotidienne, donc la ponction lombaire.
Mais mettons que dans la pratique quotidienne demain, si ce médicament arrive sur le marché, est-ce que la ponction lombaire sera un événement
probablement,
un élément déterminant?
Probablement que pour pouvoir respecter l'efficacité qui est décrite dans les études, on utilisera à peu près les mêmes critères d'inclusion des patients. Et donc, effectivement, s'il y a une ponction lombaire qui est utilisée dans le cadre de l'étude pour sélectionner les patients, ce sera probablement quelque chose qui sera fait en pratique.
Autre question, dans le cas d'un malade Attendez. Donc l'idée, c'est que voilà, un patient a reçu en 2019 des injections dans la phase 3 de Emerge, des injections qui ont été stoppées, et on me demande à quand la reprise des injections.
Je suis désolé, je ne peux pas répondre à cette question.
C'est difficile de répondre. Et je vais vous poser une question aussi un petit peu difficile. Peut-être pas de réponse, mais peut-être une réponse un peu vague.
Juste une petite précision pour la question d'avant. C'est très patient-dépendant. C'est très centre-incluant-dépendant aussi. Donc là, je conseille vraiment aux patients ou aux proches de reprendre contact avec le centre mémoire. Parce qu'il y a soit on peut possiblement prendre contact avec le laboratoire pour continuer les inclusions dans le cadre de la suite du protocole. Soit il y a d'autres protocoles de recherche qu'on peut proposer également à ce patient-là. Donc voilà. Après, c'est très patient-dépendant. Donc c'est difficile de répondre à cette question dans la globalité, quoi.
Donc, vous parliez tout à l'heure de la Food and Drug Administration aux États-Unis qui se penche sur l'examen du dossier de mise sur le marché de cet anticorps. Est-ce que vous avez une idée même très vague du temps qu'il faudrait pour qu'il arrive en France ?
Alors, je crois qu'ils ont prévu de rendre les conclusions de la Food and Drug Administration au mois de mars de l'année prochaine, je crois. Et après, ce n'est pas parce qu'il y a une autorisation aux États-Unis qu'il y en aura forcément une en France. Et ça, malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question. Après, probablement que si le médicament est autorisé, qu'il a un effet et qu'il a une balance coût-bénéfice pour le patient et pour la population intéressant, il sera à être amené, enfin, peut-être à utiliser en France, mais pour l'instant, c'est encore vraiment trop tôt, quoi.
Merci beaucoup, docteur Guillaume Chaplet, de nous avoir parlé de cette nouvelle molécule. Merci pour toutes ces